L'audience est ouverte.
Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans l'émission L'audience est ouverte. Très heureux de retrouver notre ami Maître Philippe Arbouche. Nous avons décidé, enfin vous avez décidé, Philippe, de passer cette année à nous raconter d'horribles histoires, toutes survenues dans notre département, dans notre beau département d'Eure-et-Loire. Il y a eu des faits divers extraordinaires. Et puis, on essaiera de comprendre si de tels faits divers seraient encore en mesure de se produire ici à notre époque. Et puis, comment la justice a pris la chose en compte et est-ce qu'elle la prendrait différemment aujourd'hui? Bref, on va faire des petits parallèles.
Voilà.
Et là, on va démarrer sur des épigones. Des épigones, des chauffeurs d'orgères.
Oui. Alors moi aussi, je suis bien content de revenir, Christophe. Effectivement, j'ai réfléchi un petit peu à l'intérêt de la chose, si l'on peut dire, et plutôt que de parler de grands procès internationaux ou qui ont un retentissement national, je me suis dit aussi qu'il n'y a pas seulement qu'à Paris, comme dit Georges Brassens, que le crime fleurit, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Alors, mieux vaut en rire, on est bien d'accord sur cette... Enfin, mieux vaut en sourire, et ça n'exclut pas de parler sérieusement des affaires. Et effectivement, pour commencer, j'ai pris attache avec la bande des chauffeurs d'orgères.
Ouais. Bon, on peut peut-être rappeler en quelques mots.
Alors, les chauffeurs d'orgères, ce sont des bandits qui se sont mis ensemble et qui ont... pourquoi les a-t-on appelés les chauffeurs ? C'est qu'ils pénétraient dans les maisons pour trouver les magots. À l'époque, on est un peu avant les années 1800, hein, donc il n'y a pas de banque, il n'y a pas de livret de caisse d'épargne, et puis en campagne, on garde ses sous, hein, on peut en avoir besoin.
— On a vu une chaussette.
Le matelas. Et puis vous allez voir même un peu plus tard, on essaie de trouver des cachettes amusantes. Et donc la bande d'orgères, commandée par celui qu'on a appelé le beau François... la bande d'orgères a l'habitude de pénétrer donc dans des maisons, généralement de prendre des personnes seules, âgées, isolées, et de leur faire dire où est caché le magot. Donc pourquoi chauffeur ? Parce qu'on les torture, notamment en leur chauffant la plante des pieds, qui est d'une efficacité. Alors il n'y a pas que la plante des pieds, hein, mais on a retenu ça. Ça a fait l'objet vraiment d'une publicité. À l'époque, on a l'école porteur qui viennent raconter les histoires, les mettre en musique. Et la bande des chauffeurs d'orgères, donc, a tenu en haleine le public qui, entre nous soit dit, est toujours friand de faits divers. Hein. Public dont je fais partie.
Oui, moi pareil. Hein,
oui.
Quand j'ouvre les cours républicains, je vais tout de suite voir qu'est-ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
À
quoi a-t-on échappé ? Alors, la façon dont les articles sont rédigés, bien sûr, la façon dont on appréhende l'événement, hein, la moindre anecdote peut devenir quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin, lorsqu'il y a du sang, lorsqu'il y a des assassinats, alors là, ça devient quelque chose d'intéressant. Donc ces chauffeurs d'orgères, connus et ayant fait des émules, on va en parler, en fait, eux terminent leur histoire dans le panier du bourreau, hein, puisqu'il y a 21 têtes qui tombent en 1800.
Sauf celle du beau François, d'ailleurs, qui a réussi, lui, à réchapper. En fait, on ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il est devenu.
On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que la technique n'avait rien de très original et que finalement, des petits voyous ou des grands se sont dit pourquoi pas. Ouais. Donc l'histoire là que j'ai trouvée, alors ce sont des histoires qui ont été mises par écrit et c'est Gérald Massé qui a pris la plume pour nous raconter certaines nouvelles histoires criminelles de Eure-et-Loire. Donc je me suis inspiré de son écrit, de ses livres, et puis j'ai fait quelques recherches par ailleurs, bien sûr. Alors là nous sommes en 1834. Et alors, on a un vieux bonhomme qui s'appelle le père Dufay. Enfin, on l'appelle le père parce qu'il est, il est vieux, il est âgé, oui. Et il habite à Bu. Bu, donc, c'est dans le canton d'Annette, hein, c'est au nord de l'Eure-et-Loire. Il a 77 ans. Donc, à l'époque, c'est quand même assez âgé.
C'est pas
âgé.
Mal, hein. Oui, effectivement.
Oui, c'est un vieillard. C'est un vieillard. À 77 ans, c'est un vieillard. Et alors, surtout, il est extrêmement pauvre. Il est habillé comme un mendiant. Il ne dépense rien pour se nourrir. Il vit dans une masure. Enfin, voilà. Et tout le monde sait qu'il a gardé un beau magot par derrière lui. Ça se sait. Et on est dans la nuit du 20 au 21 janvier 1833. Donc il fait froid, il y a des coups à la porte. La porte s'ouvre en fracas et il y a un certain nombre de bandits, quatre hommes, qui portent carabines, des sabres, etc. Mais le vieux, lui, il veut pas donner ses sous. Oui. Donc il prend un tisonnier et il dit ben, « Non, je vous donnerai rien ». Alors, on dit même on lui aurait dit, t'as beaucoup de sous, hein, où ils sont cachés tes sous? Et le vieux aurait dit, je dirais rien du tout. Alors, il a rien dit. On le tape, on fouille la baraque, et puis on trouve un peu d'argent. C'est 500 francs, ce qui est quand même une jolie somme, hein, déjà, oui. Mais c'est pas suffisant. « Où est ta cachette ?» demandent les gens. On peut imaginer le ton qu'ils emploient.
On voit très bien, oui.
Je dirais rien du tout.
Et ils n'étaient pas masqués, en plus, les gars. C'est
voilà.
Ça qui...
Alors, les gars, ils n'étaient pas masqués. S'étaient-ils dissimulés? L'histoire ne le dit pas. Enfin, est-ce qu'on a pu... Bon, en tout cas, c'était pas des cagoulés comme on peut...
Oui,
comme
aujourd'hui, c'est comme, ça. Voilà. Les truands prennent plus de précautions aujourd'hui.
Il n'y avait pas l'ADN à l'époque. Hein. Il n'y avait pas les empreintes. Ouais. Autrement dit, il suffisait de pas être du coin, et puis voilà, les portraits robots n'existaient pas, on n'avait pas les procédés Bertillon, enfin, il n'y avait rien. Toujours est-il que ces gens mal intentionnés l'intimident, lui, il s'en fiche, il dit l'essentiel c'est qu'on ne trouve pas mes sous, alors on lui fait quand même des choses abominables, hein. On lui met une corde autour du cou, il est à moitié pendu, quand il est pendu, il dit toujours qu'il ne dira rien, il est jeté comme un paquet, souffrance physique, morale, il est quasiment mort. Et puis, il y a un des voyous qui dit « Oh, mais le vieux, il regardait souvent son tas de patates. » Donc, ça doit être là que le magot est caché. Et effectivement, la cachette est trouvée. Il trouve les pommes de terre, un coffre dans les pommes de terre. Et,
il est dans le coffre
il avait mis un coffre dans les pommes de terre.
Et dans le coffre,
dans le coffre, il y avait des louis.
Des louis d'or.
Des louis. Alors, ils prennent des louis, et il y en a tellement qu'il faut qu'ils plient un drap en deux pour en faire un sac. Et puis, ils s'en vont. Mais le lendemain, le père Dufay n'est pas mort. Et le lendemain, donc, évidemment, il va chez le maire, voit aussi l'importance du maire. Hein, oui. À l'époque.
Le maire avait un pouvoir de police municipale,
oui.
Comme
oui,
aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Alors, pas un pouvoir d'investigation. Hein,
il n'y avait pas de police municipale, quand même.
Non, municipale, non. Mais les gendarmes étaient là, et c'est d'abord au maire qu'on s'adresse. Hein. Il dresse un procès verbal, et puis il saisit les instances juridiques. Bon, celui qui était le chef était habillé en dimanche. Et il était gros, nous dit-on. Alors bon, ben voilà. Mais, et c'est là où le fait divers prend toute sa saveur quand même, voilà-t-il pas que l'or et l'argent sont semés sur la route. C'est-à-dire que les voleurs perdent des sous.
Un coup du petit poussé, quoi.
Le petit poussé. Ils perdent des sous. Et les sous les amènent chez un dénommé Latouche. Et Latouche, il est épicier à Bu. On ne l'aime pas beaucoup. La lumière est restée allumée toute la nuit chez lui.
Ah, on imagine les commérages autour.
Ah,
de... On imagine les commérages. L'enquête de voisinage a dû être gratinée.
Le fait divers avec son, avec ses interviews de Madame Michu.
Madame
Michu qui vient nous dire.
L'épicier.
Voilà l'épicier.
Un gars de Rhin.
Un gars de Rhin. Puis la lumière quand même au prix qu'est la chandelle quand même est restée allumée toute la nuit. Et puis sa femme, elle était errante dans la rue à 3h du matin. Alors, elle a dit qu'elle avait perdu, que sa fille avait perdu un bonnet. Alors, la touche, il a du mal à expliquer comment il a pu régler des vieilles dettes. Bref, il est incarcéré. Ça y est, on a notre gars. L'enquête a été vite fait, bien menée. Mais le père du fait, qui n'est pas sot et surtout qui est honnête, en confrontation, ne le reconnaît pas.
Il ne reconnaît pas le crime.
Donc, remis en liberté.
Mais comment se fait-il que les pièces soient allées chez lui ? C'est ça difficilement.
Alors, ça,
difficile à comprendre. Ça.
Ça, c'est difficile à comprendre. Ça, c'est difficile à comprendre. Bon, faut dire, on n'a pas, en tout cas, je n'ai pas l'enquête intégrale sous les yeux. Et puis, la caractéristique aussi, c'est que dans ces affaires-là, il se passe, non pas toujours, mais souvent quelque chose qui vient perturber le cours normal des choses. J'ai souvenir d'un assassinat. C'était un fait divers pour le coup. J'ai pris dans une revue nord-américaine. Le type va assassiner son je ne sais qui, son voisin, je ne sais quoi, prend sa voiture, pour ça franchit un pont et rentre chez lui de l'autre côté et l'attend au bout du pont une fanfare, le maire, etc. Il est le millionième à traverser le pont. Donc, vous imaginez, voilà. Bon, alors, il n'a pas gagné au loto, le gars, mais il a tiré le gros lot. Bon, donc, je ne sais pas comment les pièces se retrouvent chez Latouche. On peut pas savoir. Moi, je ne sais pas.
On peut imaginer que les vrais auteurs du fait ont essayé de dérouter peut-être les enquêteurs vers l'épicier.
Sont-ils aussi malins que ça ? C'est possible, ouais, c'est possible. Oui. Ou ils ont fait un détour en passant par là. Toujours est-il que le pauvre père du fait, qui ne vivait quand même que pour l'argent, il meurt quelques jours plus tard. Donc ça fait toujours tache dans un dossier, c'est-à-dire que quand une personne décède, même là en l'occurrence, elle ne décède pas des suites des coups, mais elle meurt quelques jours plus tard.
On peut considérer que le traumatisme, par exemple,
voilà,
a pu.
Voilà. On dirait aujourd'hui. C'est ça, que le traumatisme a été tel, les conséquences, etc.
Est-ce que ça aggrave le cas ?
Alors, juridiquement, non.
Juridiquement, non, mais.
Mais dans l'opinion publique, oui.
Oui.
Dans l'opinion publique, c'est indiscutable. Cet homme devient un martyr. Alors même peut-être qu'il était un grigou peu sympathique, mais il décède et chacun prend fait et cause évidemment pour cette victime.
Oui, on se met un peu à sa place, c'est-à-dire qu'on on ne voudrait pas être à sa place.
Voilà. Il s'est quand même fait spolier, il s'est quand même fait non seulement spolier, mais torturer quand même, torturer, frapper, etc. Donc les gendarmes continuent l'enquête et c'est là où le fait divers revient. Il recueille, je cite, des éléments intéressants. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on peut compter sur les braves gens autour pour ceux
pour
qui
les aiguiller.
Voilà. Alors, il y a même des gens qui connaissent les détails de l'agression. C'est bizarre, quand même. Et donc, il y a un charpentier de Guinville, un dénommé Goard, qui aurait proposé à un autre gars de prendre part à l'expédition. Ça donne un élément. Et puis, il y a un autre villageois qui a beaucoup d'informations. Il tient ses détails du dénommé Goard. Donc, ça tourne autour du dénommé Goard. Et le juge d'instruction, donc, qui est désigné, entend les uns et les autres.
Il est désigné par...
Alors, à l'époque, les fonctions ne sont pas aussi claires que maintenant, c'est-à-dire que le procureur, et je vous renvoie sur l'excellent film « Le juge et l'assassin », où l'on voit les rôles du procureur et du juge d'instruction. Ou, par exemple, dans « Le mystère de la chambre jaune », on voit le rôle de la police et du juge d'instruction.
Savoureux juge d'instruction.
Juge d'instruction, magnifique. Et si vous voulez, il y a une espèce de double enquête qui s'effectue en permanence, alors qu'aujourd'hui, quand un juge d'instruction est saisi, les enquêteurs travaillent sur instruction du juge, oui. De ce juge.
Donc ici, c'était plutôt à Chartres que ça se passait.
Alors oui, ça s'est passé à Chartres. Ça s'est passé à Chartres. Alors, il entend le juge d'instruction, donc un dénommé Vassal, qui lui dit qu'il est venu chez lui donc pour payer une dette. Et le Vassal lui dit « Bah alors, t'es un des voleurs de but ?» Et le Goar en question, lui dit oui. Et il dit, tiens, là, 100 francs pour ton silence.
Bah, c'est pas très finaux.
Voilà.
c'est pas très finaux.
C'est ça aussi, si vous voulez, c'est que, on n'est pas dans le.
Ah oui, on n'est pas dans le haut du panier, là. Hein.
Ah non. On reste dans le coin, on est local, et puis on dilapide les sous, souvent au cabaret, ouais. Et puis là, on propose un quidam. Des sous pour le silence.
Oui, parce qu'on imagine qu'il a acheté ça, il a acheté sa phrase comme ça.
Ben bien sûr. Alors, imaginons que ce soit une plaisanterie, en l'occurrence, ça n'en était pas une. Tiens, ben, je te donne des sous pour ton silence, ça c'est le genre de phrase qui vous amène tout droit à la maison d'arrêt. Hein. Bon, Goar est arrêté, et un certain nombre de personnes du village quittent le village. Donc on est dans le village, véritablement. Alors, Lefebvre, Mazurier, Trochet...
Qui quitte le village, c'est-à-dire...
Eh bien, c'est les...
Ce sont les complices.
Les complices. Ils sont retrouvés à Paris. Y en a un seul qui échappe, voilà, et pour l'instant. Et puis, deux des complices sont pourvus en pièces d'argent, en billets de banque, enfin, bref. Bon, c'est la totale. Y en a un qui dit qu'il a trouvé l'argent à Paris. Là aussi, c'est une constante... C'est le nez dans la chose, on dit...
Non.
Vous avez beaucoup d'argent sur vous, monsieur, alors que d'habitude, vous... Et ça, c'est constant.
Et aujourd'hui encore.
Ah, c'est la même... c'est un classique. J'ai trouvé 10 000 euros chez vous et vous gagnez 1 200 euros par mois. Ce sont mes économies. C'est bien, vous faites des économies, mais comment faites-vous pour vivre? Ah, mais vous savez, je vis pauvrement. Voilà. Alors, malheur à celui qui a des économies, d'ailleurs, et qui ne peut pas en justifier, mais c'est quand même assez rare. Alors, ils s'en allaient tous en Belgique, et puis le quatrième homme revient, il était en cavale du côté de Bruxelles, et il revient, d'ailleurs, on ne comprend pas bien pourquoi, si ce n'est pour se dédouaner, car il se constitue prisonnier, et il donne le nom de ses complices. Donc il dit,
un poucave, comme on dit de nos jours.
Voilà, une balance. C'est Goar qui m'a proposé de faire ça. On s'est réunis avec Lefebvre et Mazurier. Latouche n'était pas là, mais c'est lui qui nous a indiqué le coup. Tiens. Et puis Goar a cassé la porte, etc., etc. On refait une perquisition chez Latouche. On ne trouve rien. Si ce n'est qu'on trouve 160 francs chez le père Latouche, et comme ça, les dépositions ne reposent que sur un malfrat, somme toute, sur les dépositions d'un malfrat, le père et le fils sont incarcérés, en attente d'eux. Et regardez bien, les faits se sont produits donc, dans la nuit du 21 janvier 1833. Oui. Eh bien, l'affaire est jugée par la cour d'assises d'Eure-et-Loir en fin 1834.
Ah, oui.
Deux ans
pendant lesquels les protagonistes ont été en prison.
Deux ans
durant
lesquels les protagonistes ont été en prison. Enfin, ceux qu'on a retrouvés, parce qu'on ne les a pas retrouvés tout de suite.
Oui, bien sûr, oui.
Mais c'est surtout, et là, ça nous en dit long quand même sur le fonctionnement de notre justice aujourd'hui, une affaire qu'on peut plaisanter, mais qui n'est pas forcément très simple. Il fallait aller retrouver ces gens. C'était pas évident. Je vous rappelle que le malheureux est décédé, donc il ne peut reconnaître personne.
Et puis on imagine la peur peut-être aussi des gens, parce que ça suscite un sentiment d'insécurité assez terrible.
Bien sûr, parce que bien sûr, on sait ce qu'ils ont fait à ce malheureux, à ce vieillard. Et c'est des malfrats. Enfin, c'est des gens qui à la fois vivent dans le village au milieu de leurs concitoyens, mais ce sont des véritables bandits. Enfin, ils se sont inspirés de la bande d'Orgères.
Hein. Oui, parce que la bande d'Orgères, c'est beaucoup de locaux. Hein.
Ah oui.
Parfois, je crois qu'il y avait jusqu'à 100 personnes oui. dans la bande d'Orgères.
C'est ça.
Incroyable.
C'est ça, c'est ça.
Le nombre de malfaisants qu'il y avait dans toute campagne à l'époque.
Oui, aussi de crève la faim oui. et puis de mauvaises rencontres. Le filet social, comme on dirait aujourd'hui, n'existait pas. Autrement dit, on était riche ou aisé ou on n'avait rien.
Au fond,
et ça facilite pas les choses. En tout cas, ceux-là, ils sont pris et bien pris. Et là où j'en viens, c'est que quand même, l'affaire entre les faits et le jugement, c'est 2 ans.
2 ans.
Quand vous voyez aujourd'hui qu'il n'est pas rare qu'une affaire d'assises soit jugée 3-4 ans après, que certaines affaires correctionnelles simples, dans lesquelles il n'y a pas de détenus, je vous l'accorde, sont jugées 5-6 ans après les faits.
Donc les lenteurs de la justice, c'est quoi ? C'est un problème administratif ? C'est un problème de moyens ?
C'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens. Peut-être pas exclusivement, mais c'est un problème de moyens. La procédure ne s'est pas... complexifié au point de justifier de doubler, oui. de tripler les délais. Ce qui est très important dans l'opinion publique, parce que aujourd'hui on nous vend beaucoup action-réaction, etc. Or, ça n'est techniquement pas possible pour les juges qui n'ont pas les moyens.
Alors, quand on parle de moyens, excusez-moi Philippe, on parle de moyens humains, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de... Il n'y a pas assez de monde d'employés dans les tribunaux, quoi,
oui,
c'est ça ?
Oui, essentiellement. Essentiellement. Oui, les moyens matériels, alors on en a refait des palais de justice. Bon, on pourrait discuter sur l'architecture. C'est très, très discutable parce qu'on a coupé le citoyen de son juge. Bon, le palais de justice de Paris en est un exemple frappant à cet égard où c'est très, très aseptisé. Et il n'en demeure pas moins que, par exemple, concrètement, les avocats ne peuvent pas aller voir les magistrats, les juges. Alors que c'est l'usage et c'est nécessaire dans une procédure.
Alors, comment ça se fait-il ? C'est une volonté de
c'est
part
une
du pouvoir.
Alors, oui, on pense que depuis un certain nombre d'années, on ne veut plus qu'il y ait des liens entre le citoyen, l'avocat, enfin les différentes personnes qui sont dans la justice doivent être dans leur petite case et ne pas bouger. Et c'est très étrange de constater ça quand on a connu, j'ai connu, l'époque où on entrait librement, bien sûr, en frappant et en se présentant et en demandant si on avait le temps, si le juge avait le temps de nous recevoir, et sinon on prenait rendez-vous. Il était extrêmement rare qu'un juge ne veuille pas recevoir un avocat, quand bien même l'avocat serait un casse-pied. Ça fait partie... aujourd'hui, tout cela n'existe plus. Tout ça, ce sont des formulaires par Internet. Faites une demande d'acte, etc. C'est pas la faute des
comme
juges.
— Dans toutes les administrations, si
oui,
j'ose dire.
Oui,
c'est à peu près la même
oui,
chose. —
Oui, c'est à peu près la même
on
chose. —
On peut plus avoir quelqu'un au bout du fil,
non,
finalement.
— Non. On a... Faites-le un. Est-ce que j'ai bien compris votre réponse ? Oui. Ouais. Alors j'exagère pour la justice. Mais là où j'exagère pas, c'est... le manque flagrant de moyens humains, de juges, de greffiers, pour pouvoir traiter les dossiers à temps.
Alors, là, pas de numerus clausus comme en médecine comment ça...
Ah ben, officiellement non, mais il y a toujours le même nombre de magistrats depuis 10 ans, 20 ans, et on sait depuis 10 ou 20 ans qu'il va y avoir un grand creux, puisque l'âge moyen des magistrats aujourd'hui, je l'ai lu récemment, doit être de 57 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Donc, comme les médecins généralistes, c'est exactement le même problème.
Comme les médecins généralistes. Et on a en plus, comme dans la médecine, de jeunes magistrats qui quittent aujourd'hui leur métier, alors que d'abord, c'est une passion hein, pour la plupart de ces personnes, de ces juges. C'est un métier extraordinaire. Juger son prochain, c'est quand même, hein, quand on y réfléchit. Et puis, c'est un travail aussi considérable. Et on a eu récemment des magistrats qui ont démissionné de façon fracassante.
Manque de moyens dans la justice, manque de moyens dans la police, manque de moyens dans l'hôpital.
Ouais.
On est une société qui est en voie de...
Qui manque de moyens.
Qui manque de moyens.
Alors où sont les moyens ? Ils sont sans doute ailleurs. En tout cas, en 1834, il y a les moyens. Et en 2 ans, tout le monde est jugé. Il y a 80 témoins. Il y a 3 jours. Vous voyez, 3 jours de dossier. C'est pas... aujourd'hui, on fait des hauts et des A, mais 3 jours de dossier pour une affaire, somme toute, Assez simple, assez simple. Hein. Donc les accusés collaborent avec le président, et ça c'est important parce que on a beaucoup à cette époque de gens. Alors vous savez que la notion de plaider coupable n'existe pas en France. Hein. On ne plaide pas coupable. Ça, c'est une expression qui n'a pas de sens.
Ah. Non, plaide pas coupable.
Non. Est-ce que vous plaidez coupable, c'est du, en droit anglo-saxon.
C'est aux États-Unis, quoi. D'accord.
Alors, par contre, on peut reconnaître les faits. Mais la différence, c'est que quand on plaide coupable dans le droit anglo-saxon, on a droit à une procédure, on va dire, accélérée, et par définition, une peine moins importante. Alors que quand on ne plaide pas coupable, il faut prouver son innocence. Ah, enfin, on rentre dans...
Voilà la grande différence.
La grande différence. Donc, eux, c'est pas qu'ils plaident coupable, puisque ça n'est pas ça, mais ils reconnaissent leur culpabilité. C'est pas des détails, les mots, hein, parce que à la barre, souvent, à la cour d'assises, il y a des grands moments... Et où des gens qui ont nié pendant toute une instruction, se retrouvant devant leur juge, soit par manipulation, soit par sincérité, parce que c'est très émouvant.
Et la solennité.
La solennité, et d'un seul coup, ou disent oui, c'est moi. Voilà. Donc c'est toujours très impressionnant. Et là, en l'occurrence, ils collaborent. Et comme ils collaborent, eh bien, ils auront le temps de regretter leur acte à Cayenne.
Voilà. À Cayenne,
oui. Oui, oui, on leur évite quand même, la veuve noire, la guillotine. Oui. Voilà. Alors, les Latouches sont acquittés.
Et les Latouches sont acquittés. Oui, les Latouches
sont acquittés, on ne saura jamais. Voilà. Mais voyez, autant de temps, 30 ans après, les fonctionnements de la bande d'Orgères fonctionnent encore bien. Oui. Ça existe encore aujourd'hui. On n'a pas. Je voudrais pas que ça donne des mauvaises idées à des.
Mais les bandes, oui. On sait qu'il y a beaucoup d'attaques à domicile comme ça.
Mais les attaques à domicile ressemblent toujours.
Très violentes, souvent.
Toujours. Ouais. Toujours. Enfin, très souvent. Très violents. Parce que les agresseurs sont souvent dépassés eux-mêmes.
Ouais. Merci. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
Voilà. On se retrouve bien évidemment hein, dans un mois. Pour une nouvelle édition de L'Audience est ouverte avec un nouveau crime, un délicieux petit crime survenu dans notre beau département Nord-et-Loire. Merci, je rappelle à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils peuvent réécouter cette émission sur notre site, bien évidemment, en podcast www.radiograndciel.fr. À très bientôt.
C'est pas seulement à Paris que le crime fleurit, nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Nous au village aussi l'on a de beaux assassinats. Il avait la tête chenue et le cœur ingénu. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Il eut un retour de printemps pour une de 20 ans. Mais la chair fraîche, la tendre chair, mon vieux, ça coûte cher. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Au bout de 5 à 6 baisers, son or fut épuisé. Quand sa menotte, elle a tendu, triste, il a répondu qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Qu'il était pauvre comme Job. Elle a remis sa robe. Elle alla quérir son coquin qui avait la patte du gain. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Sont revenus chez le Grigou faire un bien mauvais coup. Et pendant qu'il le lui tenait, elle l'assassinait. On dit que quand il expira, la langue elle lui montera. On dit que quand il expira, la langue elle lui montera. Mirent tous en dessus dessous, trouvèrent pas un sou, mais des lettres de créanciers, mais des saisies d'huissiers.